RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Russie, à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde de football. Après le Brésil cap à l'Est, coup d'envoi à partir du 14 juin 2018 pour un mois de compétition. Et dans le contexte géopolitique actuel, la réussite d'un événement de cette ampleur est capitale pour le pays et ses 11 villes hôtes. Alors cette fois, pas de grandes inquiétudes concernant les installations, elles sont toutes prêtes ou sur le point de l'être. En revanche, des questions nombreuses sur la capacité de la Russie à accueillir le monde. Hooliganisme, racisme, question aussi sur l'hospitalité. La Russie n'a pas forcément toujours bonne réputation. Vu de l'extérieur, le défi à relever est immense. Alors comment les Russes se préparent-ils à le relever? Grand reportage à Moscou, signé Thomas de Saint-Léger.
Un dimanche après-midi à l'Arena, le stade flambant neuf du CSKA Moscou. Avril s'éteint en fanfare. Depuis trois jours, le vent du sud chasse enfin l'hiver et ses ultimes fraîcheurs. 20 degrés, grand soleil et grand spectacle. 30 000 personnes en tribune pour le derby moscovite CSKA Spartak, les rivaux historiques de la capitale. Derrière la cage du gardien de but local Igor Akinfeyev, le cop des ultras se déchaîne. Chants, gros pétards, fumigènes rouges et bleus, l'arsenal complet pour une véritable animation son et lumière. Malgré les nombreux contrôles policiers, ces objets interdits ont pu être introduits en grande quantité. Par deux fois, le match est interrompu. À un peu plus d'un an d'une Coupe du Monde dans le pays, les organisateurs se seraient sans doute passés du coup de pub, comme de la réputation de certains supporters russes, une frange très minoritaire, mais aussi très violente. Au CSKA, comme dans d'autres clubs, la sous-culture hooligan a des adeptes. Contrairement aux idées reçues, ces hommes boivent peu, s'entraînent beaucoup et sont très organisés, de vrais professionnels de la bagarre. Yevgeny, un blond costaud d'une trentaine d'années, se présente comme l'un d'eux.
Хулиган, знаете, это скорее всего стиль жизни, да? Это отстаивание своих цветов, это поддержка клуба.
Le hooliganisme, c'est un style de vie, c'est défendre ses couleurs, défendre son club au stade, mais aussi en dehors, quelle que soit la manière. Après, chacun a son interprétation. Je n'étais pas à Marseille l'an dernier, mais ce qui s'est passé là-bas m'a beaucoup plu. Les hooligans anglais, soi-disant les plus redoutés du monde, ont été repoussés par les nôtres, pourtant moins nombreux. Deux, trois jours avant le match Russie-Angleterre, les provocations avaient commencé à fuser. Finalement, les Anglais ont eu ce qu'ils méritaient. Nos supporters n'ont fait que répondre. À Marseille, ils ont agi exactement comme il le
fallait.
Marseille, une référence pour les hooligans russes. Souvenez-vous, l'été dernier.
Bonjour à tous, à la une de ce dimanche 12 juin, la honte. Honte à la une du quotidien L'Équipe, honte dans les pages de la presse britannique. L'Euro de football 2016 continue d'être entaché par des scènes de violence.
La bagarre a duré une dizaine de minutes, mais elle a été d'une violence inouïe. Tables, chaises, bouteilles de verre sont devenues autant d'armes dans les mains des supporters russes et anglais.
Il y avait beaucoup de fans anglais ici et des fans de russes attaquent les fans anglais et c'était terrible.
Mais pour celui-là, ce sont les Anglais qui ont agressé les premiers.
Selon moi, cet après-midi, c'était la faute des Anglais. Mais ce soir, dans le stade, c'était la faute seulement des Russes.
Reste un bilan humain très lourd, 31 blessés, dont un est toujours ce matin entre la vie et la mort.
Il y a eu environ 150 supporters de nationalité russe qui sont en réalité des hooligans, qui ont l'habitude et qui s'entraînent pour des interventions hyper rapides et hyper violentes.
Depuis ces événements et dans la perspective du mondial, les autorités ont pris des mesures. Une loi anti-hooligan a été votée récemment. Elle doit permettre d'empêcher l'accès au stade des supporters russes connus pour violence. Les étrangers fichés pour les mêmes raisons se verront refuser l'entrée en Russie. À l'été 2018, 32 équipes et plus d'un million de touristes sont attendus. L'enjeu est énorme, le faux pas interdit. Alors quand le sujet est abordé, Alexei Sorokin, le directeur du comité d'organisation, se crispe légèrement. Sa réponse, en revanche, est ferme. sans ambiguïté.
No, it's not a threat for us. The security issues have been resolved. There is an accurate.
Non, ce n'est pas une menace pour nous. Toutes les hypothèses ont été envisagées, tous les risques pris en compte, que ce soit ceux liés au hooliganisme ou au terrorisme. Nous avons un programme de sécurité très développé, très complet. Les différents services concernés travaillent en parfaite coordination. Et puis nous avons mis en place des mesures supplémentaires, comme le passeport fan. Grâce à cela, grâce au passeport fan, nous saurons exactement qui sera au stade. Nous pouvons affirmer, oui, à 100% que l'environnement sera parfaitement sûr.
Et en dehors des stades, si des petits groupes d'énervés veulent en découdre, comment les contrôler ?
Je ne vois pas de quel groupe vous voulez parler. Il y a des matchs tous les jours en Russie et nous n'en voyons pas, ni dans les stades, ni autour. Vous savez, beaucoup d'événements sportifs sont organisés dans notre pays et tout se passe sans incident, sans violence. Nous avons beaucoup d'expérience ici en Russie.
Je voulais parler de cette interview donnée à la BBC par un homme se présentant comme membre d'un groupe hooligan, les Aurel Butcher. Il promet un festival de violence.
Cette personne est très étrange. Je peux vous le dire, je peux le dire à tout le monde. Ce sera plutôt un vrai festival de football.
Un festival de football sans accrocs. En Russie, les souhaits d'en haut restent rarement des vœux pieux. Concrètement, ceux qui souhaitent transformer les stades et leurs alentours en rings de boxe trouveront sans doute la police sur leur chemin. Sont-ils pour autant devenus des enfants de cœur ? Pas sûr. Leninsky Prospect, l'une des grandes artères de Moscou. Un pub d'inspiration britannique, de brawlers, les bagarreurs en français. Rock anglo-saxon et décor viril, c'est ici qu'Alexander Shprygin donne rendez-vous. Personnage sulfureux, ce sympathisant ultra-nationaliste dirigeait la VOB, l'Union des supporters russes, au moment de l'Euro 2016. Expulsé de France après les incidents de Marseille, interdit de séjour dans l'Union européenne, il a aussi vu son association écartée par la Fédération nationale de football. Question d'image. Aujourd'hui, Shprygin joue les repentis, mais le discours de ce colosse de presque 2 mètres aussi du rassurant au provocant.
Je pense que chaque touriste étranger doit faire attention à lui, quel que soit le pays dans lequel il se rend. Comme on dit, la survie d'un noyé ne dépend que de lui-même. Alors, évidemment, si un Anglais ivre se retrouve en plein milieu de la nuit dans un coin reculé, ou si, par exemple, il a l'idée de mettre le feu à un drapeau russe, il risque bien sûr d'être confronté à une situation compliquée. Mais en général, je pense que les rues seront très sûres pour les touristes, surtout dans le centre de Moscou, puisqu'il y aura beaucoup de patrouilles de police ces jours-là, notamment dans les gares et les aéroports. Je pense que ce qui s'est produit à Varsovie, quand des touristes russes ont été passés à tabac dans les rues, ou ce qui est arrivé à Marseille aux Anglais, n'arrivera pas chez nous, puisque la police sera extrêmement vigilante et localisera les incidents. La police travaille déjà là-dessus, en surveillant les échanges entre les hooligans, et les plus agressifs d'entre eux seront priés de rester chez eux. Mais je tiens à le répéter, un touriste doit lui-même savoir où il met les pieds.
Comprenez-vous la mauvaise réputation des supporters russes, les craintes qu'ils inspirent ?
Je pense que c'est une très bonne chose. Pendant des années, la vieille Europe craignait les Anglais. Et maintenant, elle se ronge les ongles quand elle doit venir jouer ici. Qu'ils aient peur. Les supporters russes sont aussi nombreux que les autres, et ce sont les plus forts. Mais contrairement aux Anglais, ils ont des limites. Vous ne les verrez pas se saouler à la bière et frapper des passants. Les nôtres utilisent la force seulement lorsqu'ils sont traités de manière agressive. Et ce sont de vrais sportifs. Ils vont régulièrement s'entraîner à la salle de musculation. C'est pourquoi quand une petite partie d'entre eux a battu des Anglais plus nombreux à Marseille, certains ont pensé qu'il s'agissait des forces spéciales. Mais non, je vous l'assure, ce n'était que de simples supporters.
Au moment de quitter le bar, Alexander Spriggin laisse une addition salée, une drôle d'impression entre une volonté sincère de voir son pays réussir à organiser une Coupe du Monde sans débordement et des références constantes au rival anglais. Sur la place rouge, quatre fois par jour, on peut entendre l'horloge du Kremlin jouer les premières notes de l'hymne national. Ici, les références à la nation sont omniprésentes. Une dévotion patriotique qui prend chez les plus extrêmes un visage effrayant. Xénophobie, racisme. Les porte-voix des pires idéologies ont trouvé dans les stades de foot un terrain d'expression idéal. Longtemps dans le déni, la Fédération russe de football réagit enfin. Un poste de super inspecteur confié à l'ancien joueur Alexei Smertin vient d'être créé à l'échelle des clubs. Des supporters se mobilisent, comme les CSKA Fans Against Racism. Sans oublier, bien sûr, le travail réalisé par certaines ONG.
We're mostly monitoring many communities of football fans on social networks.
Nous surveillons de nombreuses communautés de fans de football sur les réseaux sociaux, sur les forums. Ces gens-là aiment parler de leurs expériences, partager leurs idées, leurs performances. Nous essayons de détecter les comportements inappropriés dans les stades ou aux alentours. Cela va de la banderole insultante au chant raciste, en passant par des agressions parfois violentes à caractère xénophobe.
Violent attacks of xenophobic nature.
Depuis un petit trois pièces du centre de Moscou, il y a Artemiev et ses collègues de l'Institut Sova, la chouette en russe, veillent et luttent avec leurs armes, des ordinateurs et une solide connaissance des dossiers discrimination. Leur dernière étude sur le football russe, copubliée avec le réseau européen FAIR, a fait du bruit. 92 cas d'incidents racistes ou xénophobes répertoriés sur la saison 2014-2015. Difficile à ignorer.
The officials can't say that it's just talking. These are the facts.
Maintenant, les autorités ne peuvent plus dire que c'est un problème mineur. Les faits sont là. On avait besoin de ces chiffres pour les convaincre de la réalité du fléau. Notre travail paye. Parfois, les autorités sont encore dans le déni, mais des mesures sont prises. Par exemple, la liste des symboles considérés comme néo-nazis et donc interdits vient d'être adoptée par la Fédération russe de football. La justice est maintenant autorisée à prononcer des interdictions de stade. Bref, les autorités font quelque chose, et la police aussi. Ça n'est pas systématique, malheureusement, mais au moins, il y a une réaction.
Votre prochain rapport doit bientôt être publié. Alors, quelle est la tendance ?
Can you tell us maybe a tendency?
It's not growing. It's definitely not growing.
Il n'y a pas d'augmentation, ça c'est sûr. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un contrôle des supporters beaucoup plus strict en ce qui concerne la première division russe et donc moins d'incidents. En revanche, ça n'est pas aussi sérieux dans les divisions inférieures. Nous avons rapporté plusieurs cas de slogans nazis et de croix celtiques dans ces championnats. En ce qui concerne la première ligue, pas vraiment.
Et même s'il y a une évolution, pensez-vous que les choses peuvent changer sur le long terme ou peut-il s'agir simplement d'une amélioration passagère ?
Pour des effets à long terme, il faudrait mener une réflexion plus profonde, plus sérieuse. Mais ça n'est pas à la Fédération russe de football de s'en préoccuper, c'est plutôt le gouvernement qui est concerné. S'il souhaite sérieusement combattre l'extrême droite et ses idées, il faut changer d'attitude. Aujourd'hui, ce qui compte, ce sont les statistiques. Le nombre de personnes envoyées devant la justice. Il faudrait plutôt un vrai programme de prévention contre le racisme, contre la xénophobie. Cela permettrait de réduire les chances de voir des jeunes séduits par ces idéologies. Il y a dans certaines parties de notre société du racisme quotidien, conséquence d'un manque de culture, un manque d'éducation. C'est pour cela que je parle d'un travail d'ampleur à mener, pas seulement dans les stades de foot, mais à l'échelle de la société.
Widespread, serious anti-discrimination, anti-racism education in the society in general.
Derrière les chiffres, les statistiques, des hommes blessés. Emmanuel Frimpong, le Ghanéen, Gwelor Kanga, le Gabonais, ou encore Christopher Samba, le Congolais. Cibles de chants racistes ou de cris de singes entre 2014 et 2015, tous ont répondu par un doigt d'honneur. Tous ont été ensuite suspendus, les clubs concernés n'écopant que de minuscules sanctions financières. Témoin de ces actes, mais jamais directement visé, le joueur du Lokomotiv Moscou, Delvin Dinga, préfère ne pas trop s'épancher sur le sujet racisme. Pourtant, quand il évoque son quotidien en Russie, ce compatriote de Christopher Samba, international avec les Diables Rouges congolais, laisse filtrer un malaise certain.
La vie quotidienne d'un joueur de foot congolais ici, c'est pas... Franchement, c'est pas facile. Surtout, quand t'es africain. Ici, en Russie, c'est pas facile. Déjà, il y a la barrière de la langue. Après, il faut s'adapter, il faut chercher à comprendre la culture et tout. Mais je vous jure, c'est pas facile. Franchement, c'est ma deuxième saison, mais c'est vraiment une galère pour moi ici.
Et justement, qu'est-ce qui fait que c'est tant une galère?
C'est un peuple qui n'est pas accueillant. Surtout quand tu es étranger, c'est très difficile. Quand tu arrives, ils te montrent pas qu'ils t'accueillent à bras ouverts et tout. C'est compliqué.
Les supporters, les coéquipiers
Je dis le peuple russe en général. Que ce soit au niveau du foot, en dehors du foot, je pense que c'est... Ils sont pas accueillants, ils sont pas ouverts. Donc quand je pense à tout ça, je me pose des questions. Je me dis qu'est-ce qui m'avait pris de venir ici.
This is Sportivnaya.
La nouveauté a surpris les moscovites. Depuis quelques semaines, le célèbre métro de la ville parle enfin anglais. C'est le premier effet Coupe du Monde et c'est un changement presque aussi pratique que symbolique. Symbolique d'une Russie qui veut se montrer plus ouverte qu'on ne le dit, prête à accueillir le monde.
Centre des volontaires du MGIMO, bonjour.
À Moscou, 5 centres sont chargés du recrutement et de la formation des volontaires, ces bénévoles qui seront notamment chargés de l'accueil du public et des médias. Celui de l'université MGIMO a reçu 16 000 candidatures pour 400 postes. À sa tête, la tonique narinée Lalayen.
Мы сейчас находимся в нашей welcome zone. Сюда приходят кандидаты, волонтеры чемпионата мира по футболу.
Ici, nous sommes à la réception. C'est là que нous enregistrons les candidats. Ensuite, ils passent dans la zone des entretiens avec les recruteurs. Nous voyons arriver des gens très différents. Les plus vieux ont la cinquantaine, mais la plupart sont des étudiants âgés de 18 à 25 ans. Évidemment, comme c'est une compétition de football, il y a beaucoup de garçons. Mais curieusement, les filles sont plus nombreuses. Pour les bénévoles, cet événement est l'occasion de pratiquer les langues étrangères. C'est aussi une bonne expérience sur le plan professionnel. Par exemple, ceux qui étudient ici au département journalisme du MGIMO peuvent apprendre au contact des journalistes qui travailleront pendant le mondial. Et puis, il y a une dimension patriotique. Prendre part à cet événement, représenter le pays avec dignité, c'est aussi un devoir. C'est d'ailleurs la principale motivation.
Représenter le pays avec dignité, Constantin hoche la tête comme Narinée et ses volontaires, comme beaucoup de jeunes rencontrés à Moscou. Cet étudiant francophone du MGIMO se sent investi d'une petite mission, surtout après les incidents de Marseille.
Il nous fait mal de cœur parce qu'il y a un petit groupe de supporters qui ont fait des bêtises en France. Maintenant, tous pensent que c'est toute la Russie qui est pleine de ce type de supporters violents. C'est notre tâche de montrer que la Russie est un pays chaleur, qui est un pays qui n'est pas un pays violent. Et on veut que les pays occidentaux pensent, voient notre esprit naturel. On est très ravis de voir les étrangères. On aime les étrangères. On n'a pas toute la possibilité de voyager, mais quand les autres viennent chez nous, c'est une grande fête. Surtout en Moscou, il y a pas mal des étrangères, mais pour les autres régions, c'est vraiment une unique chance. Peut-être Ronaldo va jouer à Samara la première fois, une équipe d'Afrique qui viendra. C'est aussi très rare, c'est une grande occasion de parler, de communiquer, d'échanger des idées. On s'entend dans ces grandes fêtes.
Avant la grande fête, un apéritif, un premier test pour la Russie du 17 juin au 2 juillet prochain, la Coupe des Confédérations. une compétition qui réunira 8 sélections, dont l'Allemagne, championne du monde, le Cameroun, champion d'Afrique, le Portugal, champion d'Europe, ou encore le Chili, vainqueur de la dernière Copa América. Coupe du monde de football, le défi russe, un grand reportage de Thomas de Saint-Léger, réalisé par Sandrine Straram.